Spotkania europejskie.
Rozumiem tutaj Europę.
Rozkrucia Europej.
Stavrodromy tis Europis.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquelles.
Guillaume Meunier.
Bonjour et bienvenue au Carrefour de l'Europe. Il y a aux portes de l'Union Européenne 6 pays qui attendent patiemment leur adhésion. Les 6 pays des Balkans occidentaux, ils patientent en ordre dispersé. Quand le Monténégro ou la Serbie ont déjà entamé le processus d'adhésion, la Macédoine et l'Albanie font du surplace, tandis que la Bosnie-Herzégovine et le Kosovo sont au point mort. S'il ne faut pas limiter la vision des Balkans à une corruption galopante, à des frontières pas encore stabilisées ou puissantes mafias, il est vrai que ces pays ont du mal à positiver leur image. Lors du sommet de Sofia, il y a moins d'un mois, les dirigeants de l'Union européenne se sont d'ailleurs bien gardés de fixer la date de leur intégration. Mais face à l'influence turque et russe dans la région, l'Union européenne se doit de confirmer le destin européen des Balkans. Je vous présente les invités qui nous ont rejoints. Bonjour Laurent Gélin.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, rédacteur en chef du Courrier des Balkans. Un mot sur le Courrier des Balkans. On ne peut pas s'intéresser aux Balkans et donc à l'Union européenne sans lire, sans être un lecteur du Courrier des Balkans. Non pas sur le papier, mais sur Internet.
Oui, on l'espère. C'est un site Internet qui existe depuis 1998, donc qui a déjà une longue histoire avec plusieurs dizaines de milliers d'articles en ligne et puis le site est alimenté tous les jours avec des articles d'actualité, des analyses, des interviews, etc. Donc, c'est la Bible sur la région.
Un site de référence. Votre dernier livre, vous l'avez écrit avec Jean-Arnaud de Reims, qui est aussi notre correspondant. Il s'intitule Là où se mêlent les eaux. Vous nous emmenez, en gros, de la mer Adriatique jusqu'aux confins de la mer Noire. C'est un long voyage, essentiellement en bateau.
Tout à fait, on a voulu un peu dézoomer le regard, c'est-à-dire aborder cette région essentiellement montagneuse par la côte pour pouvoir prendre un peu de recul, avoir un peu le temps aussi du reportage et de la navigation, ce qui est important au journalisme, ne pas être toujours dans le rush. Donc voilà, c'est un livre, un récit de voyage qu'on a réalisé durant 4 mois sur toutes les côtes de la mer Adriatique, de la mer Égée et de la mer Noire.
C'est une invitation à mieux découvrir ces pays et puis peut-être à partir sur vos traces. Enfin, c'est la découverte de la grande histoire à travers la petite histoire, une succession de petites histoires.
Voilà, on a essayé de montrer que les populations sur place ont la mémoire longue, que les histoires s'imbriquent, que les empires disparus laissent des traces, que les langues minoritaires bien sont toujours parlées par des communautés qui sont souvent en danger. Voilà, on a essayé de montrer ce millefeuille culturel et identitaire qui est si fascinant pour nous et puis j'espère pour beaucoup de gens.
Là où se mêlent les eaux a été publié, il vient de sortir aux éditions de La Découverte. Loïc Trigorès, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste des Balkans et enseignant à l'Institut catholique de Paris. Bonjour Pierre Mirel.
Bonjour.
Vous êtes directeur des Balkans à la Commission européenne, ou plutôt vous l'étiez entre 2006 et 2013. Et en duplex du studio RFI de Bruxelles, nous retrouvons Vladimir Chestovitch. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes membre du Forum civique européen. Vous êtes le plus jeune des 4 invités. Vous êtes serbe et vous êtes évidemment très impliqué dans la dimension européenne des Balkans occidentaux. Laurent Gélin, on va essayer, pour nos auditeurs qui n'ont pas forcément en tête la géographie et l'histoire des Balkans occidentaux, de les resituer un petit peu dans l'espace et dans le temps. Quand on parle des Balkans occidentaux, on parle de quoi ?
Alors écoutez, à l'heure actuelle, on va parler des pays qui ne sont pas encore intégrés à l'Union européenne. Donc il s'agit de l'Albanie, de la Macédoine, du Monténégro, de la Serbie, de la Bosnie et du Kosovo. Donc ces pays ont tous des stades d'avancement différents dans le processus d'intégration. Vous l'avez dit, deux de ces pays sont un peu plus avancés que les autres, la Serbie et le Monténégro. En tout cas, l'Europe a donné comme terme des négociations d'adhésion l'année 2025.
On va évidemment y revenir sur ces éléments. En tout cas, dans ces pays, ce sont des pays qui sont globalement issus de l'éclatement de l'ex-Yougoslavie.
Tout à fait. Tous ces pays étaient des républiques fédérées de l'ex-Yougoslavie, à part l'Albanie, évidemment, qui était un État indépendant, alors avec des régimes communistes différents. Communisme yougoslave, sous la houlette du maréchal Tito, était peut-être un peu plus libéral, certainement plus libéral que le communisme stalinien d'Enver Hoxha en Albanie. Donc ces pays sont arrivés au début des années 90 avec des stades d'avancement et de développement économique différents. Même au sein de la Yougoslavie, on avait des différences et disparités régionales extrêmement importantes entre par exemple la Slovénie et la Croatie qui étaient déjà économiquement beaucoup plus développées que d'autres régions comme le Kosovo ou la Macédoine.
Alors les Trigoras, ils ont un point commun, ce sont plutôt des petits pays de par la population et de par la superficie de leur territoire. Le plus peuplé, c'est la Serbie, il compte moins de 8 millions d'habitants. Ils sont tous quand même une histoire commune, une histoire dramatique, c'est qu'ils sont tous issus de la guerre en Yougoslavie de 91 à 99.
Oui, alors encore une fois,
en dehors de l'Albanie, bien sûr.
Oui, et pour poursuivre ce qu'a dit Laurent, ils sont à la fois issus de cette histoire, mais dans des proportions tout à fait différentes. Il n'y a pas eu la guerre en Macédoine entre 1991 et 1999. Chacun l'a vécu, on l'a vécu dans chaque pays de façon différente, évidemment de façon très évidente en Bosnie, au Kosovo, en Serbie de façon un peu différente parce qu'il n'y a pas eu de guerre en Serbie pendant la guerre en Bosnie, mais il y a eu évidemment les bombardements par la suite. Donc chacun a sa propre expérience, sa propre son propre traumatisme.
Toujours douloureuse.
Oui, bien sûr.
Alors, ils ont un autre point commun, c'est que tous ces pays sont entourés par des pays membres de l'Union européenne.
Oui, c'est la raison pour laquelle parfois, de façon un petit peu péjorative, on parle de cette région comme d'un trou noir, un peu indéfinissable, où on ne sait pas trop à quoi ça correspond, on ne sait pas trop ce que c'est, et puis on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là au milieu de deux pays de l'Union ? Donc on les connaît mal pour ça, on a beaucoup de préjugés à cause de ça, bien sûr, et le fait que ce soit des petits pays rendrait leur adhésion moins difficile que ce qu'on croit sur le principe de l'élargissement, qui est que...
En tout cas, en théorie.
Oui, parce que, écoutez, intégrer un pays de 3 millions d'habitants, franchement, c'est pas...
Alors, c'est vrai que, mis bout à bout, c'est une superficie pas très importante, on l'a dit. C'est environ 20 millions d'habitants et plutôt moins. Et c'est un PIB qui équivaut plus ou moins à celui de la Slovaquie. C'est-à-dire que c'est pas considérable.
Non, sur le plan à la fois macroéconomique, géographique, démographique également, c'est pas quelque chose d'insurmontable. C'est pour ça que l'argument, on pourra en reparler, mais l'argument du il faut approfondir avant d'élargir, il vaudrait pour un pays comme la Turquie qui est immense, mais il vaut pas pour un pays de 3 millions d'habitants.
Alors en théorie, leur adhésion de ces 6 pays devrait permettre à l'Union européenne de relever des défis communs en matière de sécurité, de migration et de bon voisinage, mais à Sofia, où s'est tenu le 17 mai dernier un sommet européen consacré en partie aux Balkans occidentaux, les chefs d'État et de gouvernement européens ont laissé la porte de l'Union européenne entrouverte en se gardant bien de dire quand ces 6 pays rejoindraient les 27, un sentiment relayé ici par le président français Emmanuel Macron.
Notre intérêt comme notre responsabilité est ce qui nous aidera à construire une véritable souveraineté européenne sur le plan géopolitique, c'est d'ancrer les Balkans occidentaux auprès de l'Union européenne, de le faire avec force et une clarté stratégique que nous avons aujourd'hui rappelée et que j'ai souhaité moi-même rappeler. Le deuxième point, c'est que ceci ne peut pas se faire aux dépens de l'unité et de la cohérence. Et ouvrir un nouveau processus d'élargissement aujourd'hui, sans condition aucune, ne serait pas sérieux. C'est pourquoi j'ai souhaité m'exprimer clairement sur ce point, en indiquant que il nous faut œuvrer en tenant compte des contraintes de chacun et avec beaucoup de clarté. Premier point, donner cette perspective européenne que j'évoquais et récompenser les dirigeants qui font des efforts et sont en train de transformer leur pays. Et on ne peut nier les efforts extrêmement importants faits ces dernières années, parfois ces derniers mois, par plusieurs pays. Je pense évidemment à la Serbie, au Monténégro, qui sont dans le cadre d'une procédure qui a déjà été enclenchée de négociation, mais comme la Macédoine et l'Albanie qui y aspirent. Deuxième sujet, on ne peut aujourd'hui ouvrir de nouvelles négociations sans conditions, et il y a des sujets pointés par la Commission sur les questions migratoires, sur les questions de lutte contre la corruption, qui doivent être encore améliorées avant l'ouverture formelle de négociations visant à l'adhésion.
Pierre Mirel, en écoutant Emmanuel Macron, on comprend bien qu'il y a des différences entre ces pays. Si on fait une petite revue de détails des insuffisances de chaque pays, alors je rappelle ces 6 pays, la Serbie, le Monténégro, l'Albanie, le Kosovo, la Macédoine et la Bosnie-Herzégovine, une grande différence entre tous ces pays qui sont tous sur une ligne de départ mais qui ne partent pas avec les mêmes avantages et certains ont quand même beaucoup de problèmes.
Oui, des différences bien sûr, et différences qui se traduisent par un avancement, un état d'avancement vers l'Union européenne différent, mais tout de même, il y a un fonds commun que la Commission a bien mis en valeur dans son document de février, qui est de façon générale dans tous les pays, sans exception, des gouvernants qui ont jusqu'à maintenant très largement privilégié leurs intérêts à court terme pour se maintenir au pouvoir, par la captation d'État, la corruption, un pouvoir judiciaire qui est très loin d'être indépendant. Donc ils ont privilégié plutôt les intérêts à court terme au bénéfice attendu à long terme des réformes que le mouvement vers l'adhésion entraîne. C'est un peu ça la difficulté. Et lorsque le président Macron dit ils doivent s'adapter, moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que Loïc disait. Il y a une double question dans l'intégration de ces six pays. Certes, économiquement, en population, c'est bien peu au regard de ce que représente l'Union européenne actuellement. Mais il y a un problème institutionnel, de fonctionnement de l'institution, si à terme, 5-6 pays sont ajoutés, alors que l'Union a déjà des difficultés à fonctionner, donc ça fait référence plutôt à l'Europe à plusieurs cercles. Et puis surtout, il y a les leçons d'un passé récent, leçons de la Pologne et de la Hongrie en ce qui concerne le respect de l'article 2 du traité et de certaines valeurs, le pouvoir judiciaire, ou Bulgarie-Roumanie, et donc la nécessité, comme M. Macron le disait, eh bien d'avoir une adhésion claire avec un respect des critères et une mise en œuvre des réformes, donc non seulement des réformes adoptées sur le papier, mais des réformes qui produisent des effets concrets sur le terrain. Et ça, c'est important.
Vladimir Shostovich, lorsqu'on est jeune serbe, même si vous êtes très européen, vous vivez un peu à Bruxelles et vous avez longtemps vécu en France, quel regard portez-vous lorsque vous entendez Emmanuel Macron qui dit « bien sûr, il y a une perspective européenne à tous ces pays des Balkans occidentaux, mais prudence, il faut attendre qu'ils correspondent un peu aux standards européens et c'est pas pour demain ».
C'est une situation assez paradoxale dans la jeunesse, alors serbe notamment, mais ça s'applique aussi à tous les autres pays. C'est qu'il y a une partie de cette jeunesse qui a un degré d'éducation assez élevé, qui a fait des études assez longues et qui est plutôt europhile, donc pour une intégration rapide. Mais cette jeunesse aussi, elle part régulièrement. Il y a un exode de cette jeunesse vers d'autres pays européens, justement, où ils vont, en quelque sorte, vendre leurs talents ailleurs, par manque de perspectives en Serbie, au Monténégro, en Albanie, en Macédoine également. Donc c'est assez compliqué pour cette jeunesse de s'y retrouver non seulement dans les propos de Monsieur Macron, mais aussi dans les perspectives, dans les promesses qu'il y a du processus de Berlin par exemple, ou encore du tout dernier sommet à Sofia. Et de l'autre côté, il y a une partie des jeunes qui, pour survivre, on va dire, sont assez rapidement intégrés à des partis politiques, je pense là surtout à la Serbie, et qui, pour le coup, ont, en échange de leur adhésion à un parti politique, ont, en général arrivent à trouver un travail assez rapidement, soit dans des institutions, soit dans des autorités locales. En tout cas, ils sont jamais très loin des cadres du parti. Et cette jeunesse-là, c'est un petit peu plus mitigé au niveau de l'adhésion européenne. On va dire qu'ils jouent la ligne du parti, ils s'alignent sur les directives du parti qui sont l'exemple de Monsieur Vučić par exemple du parti du SNS qui est au pouvoir en Serbie actuellement, qui travaille effectivement à l'adhésion européenne, mais qui en même temps ralentit sur beaucoup de dossiers, sur beaucoup de chapitres qui sont déjà ouverts, qui ralentit énormément les processus.
Laurent Gélin, il y a un point commun à tous ces pays, c'est que tous les gouvernements sont très nationalistes.
Oui, alors il faut
avec
voir.
Des degrés divers, peut-être.
Il faut voir ce que veut dire nationaliste pour beaucoup de dirigeants au pouvoir dans la région. Être nationaliste, c'est avant tout agiter les peurs identitaires dans chacun de ces pays pour pouvoir plus facilement se maintenir au pouvoir. Donc on pourrait faire un jeu et essayer de trouver qui sont les vrais nationalistes, des faux nationalistes, mais ça mènerait pas très loin. Le problème, c'est que les cicatrices de la guerre ont souvent été mal guéries, avec des systèmes économiques défaillants qui ne permettent pas à la population véritablement finalement de passer à autre chose, de faire l'examen de ces périodes de guerre. Il est très facile de mobiliser les populations avec des discours excluants, identitaires, pour pouvoir soi-même se maintenir au pouvoir. L'exemple le plus concret de cette situation, c'est peut-être la Bosnie, où on a toujours, plus de 25 ans après la guerre, trois partis nationalistes à la tête des trois principales communautés du pays, à savoir les Serbes, les Bosniaques et les Croates. Et ces partis-là, aidés par le système institutionnel des accords de paix de Dayton de 1995, bloquent totalement toute réforme politique en Bosnie, empêchent les habitants finalement de choisir eux-mêmes leur destin et favorisent la reconduction d'élites corrompues et nationalistes au pouvoir dans ce pays, ce qui bloque évidemment toute perspective d'intégration à court terme et à moyen terme.
Alors qu'est-ce qu'il faut penser par exemple de la conversion européenne des dirigeants nationalistes? Ils sont donc assez nombreux dans la région, on vient de le dire. Je pense notamment à Aleksandar Vučić, le président de la Serbie, passé de l'extrême nationalisme à une europhilie de bon aloi.
Bah écoutez, je pense qu'à un moment, Monsieur Vučić a fait le constat que le nationalisme des années 90 ne suffisait plus en Serbie à se maintenir au pouvoir. Donc il a fait le choix effectivement d'une conversion européenne de sa politique pour arriver à la tête de l'État serbe. Alors ensuite, on peut aussi argumenter, essayer de définir, de trouver les vraies convictions européennes de Monsieur Vučić. Une chose est certaine, il met en œuvre des réformes pour pouvoir avancer vers l'Union européenne. Mais si l'Union européenne commence à être trop critique, notamment envers l'état de droit, envers la liberté de la presse, envers toute une série de questions qui sont toujours très importantes en Serbie et absolument pas réglées, hein, il y a des journalistes qui se font attaquer régulièrement en Serbie par exemple, Monsieur Vučić peut très rapidement dire attention, nous avons aussi cette amitié avec la Russie, nous avons des liens avec Monsieur Erdogan en Turquie, il peut jouer sur d'autres cartes pour pouvoir en quelque sorte faire peur aux dirigeants européens ou les mettre en garde en leur disant si vous me faites si vous me posez trop de problèmes, je peux aussi me tourner vers d'autres interlocuteurs qui sont tout aussi influents dans mon pays.
Pierre Mirel,
en même temps, il n'y a pas vraiment d'alternative pour ces pays. Hein. Vous rappeliez tout à fait au début qu'ils sont déjà géographiquement dans l'Union. Près de 80% de leur commerce est avec l'Union, en termes d'investissement aussi. Donc il n'y a pas d'alternative.
Certains pays ont même l'euro en partage.
Oui, pour deux d'entre eux, effectivement.
Pierre Mirel, vous qui à la Commission européenne avez assisté à tout ce processus d'élargissement depuis 2015, justement, quelle différence entre l'adhésion des pays d'Europe centrale et orientale, donc les 10 qui ont adhéré en 2004 et après les deux suivants en 2007, et puis aujourd'hui celle des pays des Balkans occidentaux, il y a une différence?
Il y a une très grande différence sur trois points essentiellement. Le premier point est qu'avec les pays d'Europe centrale, il y avait la volonté d'aller le plus rapidement possible vers l'Union européenne d'un côté et l'OTAN d'ailleurs de l'autre, qui est un autre sujet, en faisant toutes les réformes qui étaient demandées le plus vite possible, quel qu'en soit le coût politique. Et d'ailleurs, tous les gouvernements qui se sont succédés ont continué sur cette même voie. Première grande différence. Donc avec un soutien global de politique, économique, la société civile, etc. Deuxième grande différence, l'Union européenne, à ce moment-là, ne connaissait pas tous ses problèmes internes. Et il y avait sans doute peut-être une naïveté de croire que le pouvoir de transformation l'Union apporte dans le processus d'adhésion allait quand même, par un coup de baguette magique, permettre cette adhésion. En tout cas, ça fonctionnait dans le cinquième élargissement. Et troisièmement, et ça c'est une grande différence, il n'y avait pas d'interférence négative de grands acteurs extérieurs. La Russie somnolait, si l'on peut dire. Et je me souviens, le président d'un grand pays d'Europe centrale disant « Intégrez-nous rapidement pendant que le grand tour se dort ».
C'était l'Ejvalesa, c'est ça?
Lorsqu'il se réveillera, eh bien, l'Europe tremblera. Donc ça, ce sont des différences énormes par rapport aux Balkans. Et je crois que peut-être l'erreur que l'on a faite, et je voudrais rebondir sur ce que disait Vladimir par rapport à la jeunesse un peu désabusée, les difficultés économiques et les migrations, l'erreur qui a été faite peut-être du côté de l'Union européenne a été de croire que les Balkans allaient suivre finalement le même processus après ces guerres, allaient tourner la page et s'engager dans des réformes et que l'on allait obtenir les mêmes résultats, peut-être moins rapidement, mais quand même de façon assez efficace. Je pense qu'on a mis la charrue avant les bœufs et que ce qui est en train d'être fait aujourd'hui à travers le processus de Berlin, le sommet de Sofia, c'est-à-dire une sorte de plan beaucoup plus ambitieux d'investissement dans les transports, dans l'énergie, dans le numérique, etc., aurait dû être fait beaucoup plus tôt. pour enclencher un mouvement un peu plus vertueux de développement économique et donner un espoir plus grand, notamment à la jeunesse.
On va faire une pause sur RFI, la radio de l'Europe et du monde, le temps de prendre connaissance des toutes dernières nouvelles de la planète. À tout de suite.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
Rebonjour, Carrefour de l'Europe, deuxième partie. Il y a aux portes de l'Union Européenne 6 pays qui attendent patiemment leur adhésion, les 6 pays des Balkans occidentaux. Ils patientent en ordre dispersé quand le Monténégro, la Serbie ont déjà entamé le processus d'adhésion, la Macédoine et l'Albanie font du surplace, tandis que la Bosnie-Herzégovine et le Kosovo sont au point mort. S'il ne faut pas limiter la vision des Balkans à une corruption galopante, à des frontières pas encore stabilisées ou aux puissantes mafias, il est vrai que ces pays ont du mal à positiver leur image. Lors du sommet de Sofia d'ailleurs, il y a moins d'un mois, les dirigeants de l'Union européenne se sont bien gardés de fixer la date de leur intégration. Mais face à l'influence turque et russe dans la région, l'Union européenne se doit de confirmer le destin européen des Balkans. Je vous représente les invités qui nous ont rejoints. Laurent Gélin, journaliste, rédacteur en chef du Courrier des Balkans. Il vient de sortir un livre avec Jean-Arnaud Derain, absolument passionnant, un récit de voyage, là où se mêlent les eaux, à la découverte. Loïc Trigoureste est un grand spécialiste des Balkans, il est enseignant à l'Institut catholique de Paris. Pierre Mirel est ancien directeur Balkans à la Commission européenne, c'était entre 2006 et 2013. Et en duplex du studio RFI de Bruxelles, Vladimir Sechtovitch, il est membre du Forum civique européen. Avant de reprendre notre débat, nous allons faire un détour par la rédaction de Courrier International. Bonjour Jerry Philippe.
Bonjour Daniel.
On a évoqué la timidité de l'Union européenne à l'égard d'une adhésion rapide des pays des Balkans occidentaux, qui bien sûr peut se comprendre, mais la nature et la géopolitique ont horreur du vide et un pays comme la Turquie, en profite habilement pour pousser ses pions dans la région. C'est en tout cas l'analyse du journal croate Globus.
Tout à fait. Et en fait, on sait que la Turquie s'éloigne de l'UE. En effet, en même temps, elle est de plus en plus présente dans les Balkans occidentaux. On peut prendre l'exemple du Kosovo. Le Kosovo, c'est le premier État européen extradé vers la Turquie des personnes liées à Gulen. Bon, Fethullah Gulen, c'est l'ennemi juré d'Erdogan, président turc, accusé d'être à l'origine de la tentative de putsch en Turquie de 2016. Et en mars, ils ont extradé donc 6 personnes liées à la fondation Gulen. C'était essentiellement des enseignants qui travaillaient légalement là-bas. Côté serbe, et ça peut vous sembler étrange parce que on sait que la Serbie ne reconnaît toujours pas le Kosovo, mais les investissements turcs sont en hausse, sont en train de flamber côté serbe. D'ailleurs, le Kosovo reproche à la Turquie de bâtir des mosquées chez nous pendant que la Turquie construit des usines en Serbie. Je vais terminer avec l'histoire de la Bosnie-Herzégovine. C'est une longue histoire, mais brièvement, dans son testament, Alija Izetbegović, c'était le premier président de ce petit État, il a demandé à président Erdogan à veiller sur le destin de son pays. Plus récemment, on a vu la présidente croate, Kolinda, qui, Croatie, est un membre de l'UE, a demandé l'aide à Erdogan pour trouver une solution au problème qui paralyse le fonctionnement de la Bosnie, notamment sur les réformes électorales que souhaite la communauté croate bosnienne. Et puis j'ajoute que Erdogan sert également de médiateur entre Belgrade et Serbie et Sarajevo. Vous voyez bien la Turquie toujours candidate à l'adhésion à l'UE, mais plus personne n'y croit réellement. Cependant, au moment où, comme vous avez dit tout à l'heure, l'UE timorée ne sait plus trop comment s'y prendre avec Ankara dans les négociations d'adhésion, ce pays est devenu incontournable dans les Balkans occidentaux.
Merci Jerry, Courrier International d'Hebdo et courrierinternational.com, le site. Loïc Trigorès, on voit que si l'Union Européenne est quelque peu timorée, les Balkans occidentaux ne laissent pas indifférent un pays comme la Turquie, qui place ses pions, mais aussi la Russie, qui peut compter sur un allié fidèle, la Serbie. Et puis on pourrait parler aussi de deux autres acteurs actifs, par exemple les pays du Golfe, très présents en Bosnie-Herzégovine, ou encore l'Arabie Saoudite, et bien sûr la Chine.
Oui, alors, je voudrais quand même... Pierre Mirel avait raison de rappeler que pour les pays de ce qu'on appelle les Balkans occidentaux, il n'y a pas de... Enfin, il n'y a pas de plan B, si vous voulez. Il y a l'intégration européenne qui prendra le temps que ça prendra, mais la Russie n'a rien à proposer de positif de ce point de vue-là, la Turquie non plus, la Chine non plus. Donc, il faut quand même garder à l'esprit que c'est pas comme si on pouvait choisir. Bon, il y a l'intégration européenne d'un côté et puis ce que proposera la Russie de l'autre. La Russie ne propose rien. La Russie est une force d'obstruction à l'élargissement de l'OTAN. Et d'obstruction, d'une façon générale, à un projet européen, bon, libéral, démocratique, ce que vous voulez, qui a pour objet d'empêcher de faire. Alors, rejoint en cela d'ailleurs par Orban assez récemment, sur le sujet de la Macédoine par exemple. Donc voilà, il faut garder à l'esprit que il n'y a pas de proposition en face. Deuxièmement, il faut quand même rappeler que le principal partenaire économique de la Turquie dans la région, c'est la Serbie. Donc, faut aussi se méfier sur les évidences religieuses, culturelles, qui n'en sont pas forcément. Le principal partenaire de la Turquie, c'est la Serbie. Donc voilà sur ce plan. Il n'y a pas d'autre plan. Il n'y a pas d'autre proposition, si vous voulez. Donc, on peut toujours jouer la carte des Russes en disant attention, si vous m'en demandez trop, je vais me tourner vers Moscou. Le fait est que Moscou n'a rien à proposer.
Laurent Jolin, un mot sur l'influence des pays du Golfe, de l'Arabie Saoudite?
Alors, il y a eu des connexions, je dirais une solidarité musulmane, notamment pendant la guerre de Bosnie entre 92 et 95. Il y avait des combattants qui étaient venus se battre en Bosnie aux côtés des Bosniaques. Je dirais l'influence de l'Arabie Saoudite de même n'est pas à surestimer. Il y a des touristes qui viennent en Bosnie, il y a des villages de vacances qui ont été créés.
Et puis des mosquées qui sont construites sur financement.
Je dirais que cette vague a peut-être été plus forte par le passé et qu'elle a tendance, je pense, à s'affaiblir. Notamment après 2001, il y a eu quand même une action efficace et intensive des États-Unis dans la région pour exfiltrer, extrader, emprisonner certains combattants qui habitaient toujours en Bosnie-Herzégovine depuis 1995 et qui avaient d'ailleurs pour certains d'entre eux reçu la nationalité bosnienne en récompense de leur fait d'armes. Il y a eu une influence religieuse au Kosovo également, certaines mosquées ont été financées, etc. Aujourd'hui, il faudrait mener un travail extrêmement pointu pour savoir quels sont les réseaux réellement actifs dans la région. Cependant, il me semble moins fort qu'il y a quelques années.
Pierre Mirel, et puis aussi l'influence de la Chine, la route de la soie passe par les Balkans et notamment par la Macédoine.
Oui, moi je suis beaucoup plus inquiet par l'influence de mouvements islamistes radicaux. Il y a tout de même des communautés qui vivent dans des zones retirées de Bosnie, une influence également au Kosovo, voire en Macédoine. Je suis beaucoup plus inquiet par cela que par l'influence, par exemple, de la Russie. Je trouve qu'on surestime l'influence de la Russie. La Russie n'a pas véritablement de problème avec l'adhésion de ces pays à l'Union. Au contraire, elle veut en profiter pour prendre des participations, des positions économiques, avant que ces pays n'adhèrent dans l'énergie. Son problème, c'est l'OTAN. C'est l'adhésion de ces pays à l'OTAN. Tout s'explique dans le pouvoir d'obstruction dont parlait Loïc par l'opposition à l'OTAN. La Chine, c'est un pays qui profite des opportunités qui se présentent. À partir du moment où aucun opérateur européen n'est en mesure de racheter le port du Pirée, les Chinois ont fait une offre et l'ont racheté. C'est de bonne guerre, j'allais dire, hein. C'est la loi du marché. Et c'est là où l'Union européenne, finalement, a été beaucoup trop timide depuis des années, notamment dans les investissements en matière de transport. Voilà.
Vladimir Šeštović, qu'est-ce que ces pays des Balkans occidentaux et les populations attendent de l'adhésion à l'Union européenne, de l'Europe? Ce qu'on peut en dire, en tout cas ce que vous pouvez en dire, un arrimage aux valeurs européennes, la démocratie, l'état de droit, la liberté des minorités, la liberté de la presse, l'indépendance de la justice, voilà en gros les valeurs européennes, ou une Europe un peu supermarché comme aujourd'hui le pratique la Pologne ou la Hongrie. Ce qui nous intéresse, disent en quelques mots les Polonais, bah, c'est avant tout les fonds structurels, les investissements européens, et le reste, on vous laisse vous débrouiller, ça ne nous regarde pas. Autrement dit, nous avons des droits et pas vraiment de devoirs. Est-ce que c'est une approche qu'auraient les pays des Balkans occidentaux en vue d'une adhésion à l'Union européenne dont on a compris qu'il c'était pas tout à fait pour demain?
Il y a plusieurs aspects là-dessus. Il y a notamment le côté des valeurs, ça, vous faites bien de le rappeler. La Russie, la seule chose en fait qui est proposée actuellement par la Russie, c'est cette histoire de dire on est plus proche en termes de valeurs des Russes plutôt que des valeurs occidentales, comme on les appelle, des valeurs européennes. Alors c'est un argument qui est de longue date, bien qu'il y ait des intérêts économiques derrière pour la Russie forcément, mais il revient assez régulièrement dans la bouche des personnes. C'est, si vous regardez les sondages Eurobaromètre, les gens sont, on va dire, au-delà de 50% des personnes sont favorables à une adhésion à l'Union européenne. Mais il y a toujours cette question de si on adhère à l'Union européenne, il faut forcément qu'on adhère à l'OTAN. Et comme le rappelait Laurent en début d'émission, c'est une population à la mémoire longue. Et même chez les plus jeunes, il y a toujours, notamment en Serbie, cette histoire avec les bombardements, par exemple, qui a encore du mal à passer 20 ans après. Il y a encore une sorte de rancœur envers l'OTAN en Serbie notamment, qui fait que pour eux, le processus d'adhésion à l'Union européenne équivaut automatiquement à l'adhésion à l'OTAN. Sur les fonds structurels, forcément, les investissements commencent à se ressentir, même si la Serbie est traversée par une autoroute. En Bosnie, on est encore, en termes d'infrastructures et de réseaux, on est encore très loin. Alors, il y a des choses qui sont en train d'être mises en place, par exemple, à travers le processus de Berlin. Il y a des investissements importants, surtout sur l'éducation, qui justement amènent une valeur ajoutée réellement au processus d'adhésion, dans le sens où les plus jeunes commencent à avoir de vrais programmes sur des questions d'éducation civique notamment, qui permettent de les rapprocher un petit peu des valeurs européennes. Après, il y a toujours vous le disiez aussi très bien, avec les visions court-termistes, les dirigeants qui jouent un petit peu sur toutes les cartes, par exemple en Serbie, des quotidiens qui sont financés assez lourdement par l'argent public, qui ont une position très russophile dans leurs lignes éditoriales. Donc à ce moment-là, il y a une sorte de paradoxe, de contradiction entre la volonté d'adhésion à l'Union européenne et la volonté d'embrasser les valeurs occidentales, avec cette propagande russe de l'autre côté.
Et vous le disiez, Vladimir Šeštović, l'histoire est profondément ancrée dans l'esprit des habitants de ces pays, Laurent Gélin. Il faut rappeler quand même le nombre de morts qu'il y a eu entre 1991 et 1999, avec l'éclatement de la Yougoslavie qui a duré à peu près 8 ans. Hein. On est à 250 000 morts, quelque chose comme ça.
Oui, alors les estimations aujourd'hui sont beaucoup plus fiables qu'il y a quelques années. On parle aujourd'hui de 100 000 morts durant la guerre de Bosnie, environ 20 000 morts pendant la guerre de Croatie, et durant la guerre du Kosovo, c'est,
c'est
10 000 à peu près. Voilà.
Ce qui voudrait quand même, à l'échelle de la France, l'équivalent de 600-700 000 morts dans une guerre qui a été une guerre civile.
Ouais, bien sûr, il faut mesurer l'ampleur du traumatisme, à la fois les morts, mais aussi les blessés, les personnes qui ont été déplacées. Hein. En Bosnie, on estime que 2 millions de personnes ont été déplacées durant la guerre sur les 4,1 millions d'habitants qu'on comptait le pays en 1991. Donc il y a un traumatisme, il y a les morts, il y a les blessés, il y a les déplacés, et puis il y a une formidable diaspora qui s'est développée. Les gens ont fui massivement les pays de l'ancienne Yougoslavie. Ça a pu être par les combats, à cause des combats, mais ça a pu être aussi à cause de la situation économique désastreuse de la région. Donc vous avez aujourd'hui plusieurs millions de gens qui sont à l'étranger, alors en Europe occidentale, en Allemagne, aux États-Unis, en Australie, etc. Je faisais un reportage récemment en Bosnie et les gens me disaient, moi je préfère travailler pour 1200 euros sur un marché en Allemagne que pour 300 euros en Bosnie, parce que je sais qu'en Allemagne, le pays va me donner un cadre où je vais pouvoir élever mon enfant et penser à l'avenir de ma famille de façon relativement sereine, ce qui n'est pas le cas en Bosnie.
Il faut vraiment souligner, finalement, c'est la situation économique est mauvaise, la démographie est déclinante, vous avez écrit dans Le Monde Diplomatique, avec Jean-Arnaud de Reims, un long papier qui explique la catastrophe démographique qui attend ces pays où la natalité est au plus bas et l'exode au plus haut. Donc il y a des problèmes de fond très graves dans le devenir même de ces pays, Laurent Chenin.
Oui, et puis ça pose plein de questions sur le système social, sur le système étatique de ces pays. Si vous pouvez plus payer les retraites, le salaire des fonctionnaires, etc., ça veut dire que toute la société menace de s'effondrer. Si vous avez plus de rentrées fiscales pour assurer les retraites de vos anciens, c'est que la société va s'effondrer ou qu'elle va très mal. Ça implique aussi des départs massifs, par exemple de médecins, d'infirmières, mais aussi de professions, techniques qui servent à la vie quotidienne de la population, comme des plombiers, comme des électriciens. L'Allemagne emploie et massivement ce genre de profil professionnel, et ces gens évidemment préfèrent travailler dans un pays riche, développé, avec un État qui fonctionne plutôt que dans les pays des Balkans.
Carrefour de l'Europe. Daniel Desesquelles.
Carrefour de l'Europe, quelle relation entre l'Union européenne et les pays des Balkans occidentaux? Quelle perspective d'avenir, d'adhésion pour ces pays? Nous sommes avec Laurent Gélin, journaliste et rédacteur en chef du Courrier des Balkans, avec Loïc Trégorès, spécialiste des Balkans et enseignant à l'Institut catholique de Paris, avec Pierre Mirel, ancien directeur Balkans à la Commission européenne, avec Vladimir Sestovic, membre du Forum civique européen. Il est en duplex du studio RFI de Bruxelles. Lors du sommet de Sofia, il y a eu un échange amusant et révélateur entre le Premier ministre bulgare Boyko Borisov, qui explique que, après tout, ces six pays représentent le PIB de la Slovaquie, une population inférieure à celle de la Roumanie, ce à quoi le président de la Commission européenne, Donald Tusk, a répondu « Mais en termes de problèmes par tête, par capita, les Balkans dépassent largement l'Allemagne et la France pris ensemble, Loïc Trégorès. » Alors c'est vrai qu'il y a des problèmes de frontières, on a évoqué à l'instant avec Laurent Gélin les problèmes de pauvreté, de difficultés économiques, d'exode, des démographies déclinantes. Alors, les problèmes de frontières, c'est par exemple la Serbie et le Kosovo.
Oui, alors ça, pour le coup, les leçons de Chypre ont été retenues et chacun sait que cette question devra être réglée pour la Serbie avant d'entrer. Tout le monde pense, je crois que c'est à juste titre, que Aleksandar Vučić est la personne qui... Le président serbe. S'il y a une personne qui, en Serbie, pourra faire aboutir cette question en faisant passer un référendum in fine, c'est probablement lui. C'est la raison pour laquelle, probablement, également, on passe sous silence tous les problèmes qu'on a mentionnés sur sa pratique du pouvoir, parce que vous avez dit que c'est un ancien ultranationaliste. Moi, j'ai tendance à penser que les gens ne changent pas, ni dans leur pratique du pouvoir, ni dans relativement dans ce qu'ils pensent.
D'autant plus que son homologue kosovar, Hashim Thaçi, est lui aussi, par définition, un très grand nationaliste.
Oui, mais il s'entend, mais bon, ce sont des alliés objectifs. Faut pas, quand la Serbie envoie un train au Kosovo pour créer un incident, les deux en bénéficient. Quand il y a un incident ou l'arrestation d'un ministre serbe, chaque fois qu'il y a un incident comme ça, ça bénéficie aux deux. Dans leur position de négociation respective, là, Kristina vient de dire qu'il se retirait du dialogue. Chacun fait monter sa position de négociation. Chacun sait qu'in fine, il faudra bien aboutir à quelque chose, mais chacun dit, vous voyez, nous, on a fait ça, eux, ils l'ont pas fait, donc on recule là-dessus. Néanmoins, la Commission et les Européens ont parfaitement raison de dire tant que les problèmes de frontières ne sont pas réglés, il ne se passera rien.
Alors, il y a eu à Sofia, je crois que ça a été une photo qui a fait... Le président serbe a serré la main du président kosovar. Je crois que c'était la première fois où...
Parce que le dialogue Belgrade-Pristina est à Bruxelles très souvent, donc on les voit très très souvent à Bruxelles avec Madame Mogherini, avec plus ou moins le sourire. Ça arrive très souvent.
Et il se serre la main de temps en temps.
Aucun problème avec ça.
Alors, Pierre Mirel, on comprend quand même que dans ces conditions, le discours de l'Union européenne se tient en une phrase. Aide-toi et l'Europe t'aidera.
Absolument. Mais je voudrais compléter votre phrase en disant que finalement, les pays des Balkans qui blâment continuellement l'Union européenne, ils sont aussi, d'une certaine façon, pressés de se faire attendre eux-mêmes, en ne faisant pas les... Alors c'est un peu un cercle vicieux.
C'est-à-dire, expliquez-nous ça.
C'est un petit peu... Il y avait une grande boutade dans l'Europe centrale communiste. On fait semblant de nous payer, nous faisons semblant de travailler. Et dans les Balkans, on raconte un petit peu la même chose. Ils font semblant de vouloir nous intégrer, on fait semblant de vouloir réformer. Mais c'est un peu un cercle vicieux. À partir du moment où les pays ne font pas les réformes nécessaires, l'Union européenne est, évidemment dresse le constat, ça n'est pas demain que vous allez pouvoir adhérer. Faites d'abord les réformes fondamentales, non seulement pour adhérer, mais que votre propre population attend. Le fameux baromètre Balkan qui est publié chaque année, qui va l'être dans deux semaines, montre très bien que les populations sont fatiguées de l'absence de réforme du judiciaire, de devoir payer pour les moindres services à l'hôpital, aux juges ou bien aux enseignants. Donc c'est ça un petit peu le cercle vicieux.
Alors, je voudrais qu'on dise un petit mot sur la Macédoine, dont le nom même n'est pas reconnu. Enfin, il faut dire un petit mot, la Grèce refuse que l'ancienne république yougoslave de Macédoine s'appelle la Macédoine, parce que la Grèce estime que la Macédoine, c'est une partie de la Grèce, le nord de la Grèce, et là, il y a un blocage ancestral, hein, depuis une vingtaine d'années. Un léger petit mieux, semble-t-il.
Oui, depuis l'arrivée au pouvoir d'un nouveau gouvernement à Skopje, un gouvernement mené par le Premier ministre Zoran Zaev et les sociaux-démocrates, on assiste effectivement à un réchauffement des relations entre Athènes et Skopje. Des négociations très régulières sont entamées. Plusieurs appellations provisoires ont été proposées, comme Nouvelle Macédoine, Macédoine du Nord ou Haute Macédoine. Le problème, c'est que ces deux interlocuteurs, Zoran Zaev et Monsieur Tsipras à Athènes, sont extrêmement fragiles dans leur pays réciproque. Zoran Zaev dispose d'une majorité au Parlement extrêmement courte, hein, 60 députés sur les 120 que compte le Parlement macédonien, et il doit faire face non seulement à une opposition interne du parti nationaliste du VMRO de Penemëe, mais également il doit gérer la composante albanaise qui constitue, dont les députés constituent une bonne partie de son gouvernement. Donc vous avez à la fois des questions intérieures, hein, l'opposition nationaliste, la question albanaise sur lesquelles il faut s'entendre, et puis en Grèce, le gouvernement de M. Tsipras est aussi relativement faible, et des élections sont attendues l'année prochaine en Grèce. Donc il faut absolument que cette question du nom soit réglée avant cette date, pour espérer qu'elle soit un jour solutionnée. Maintenant, la question est de savoir quand, et en effet, tant qu'elle ne sera pas réglée, ça bloque l'intégration de la Macédoine à l'Union européenne, mais aussi à l'OTAN.
D'un mot, Vladimir Šešović, la Serbie espère rejoindre l'Union européenne en 2025. Ça vous paraît raisonnable ou pas ?
C'est ce que les Serbes espèrent, en tout cas une majorité de Serbes. Après avoir les déclarations de M. Macron et l'avancement des négociations par le gouvernement actuel, j'ai quand même assez de doutes, surtout que l'Union européenne, malgré tous les efforts aussi, a tendance à privilégier une certaine forme de stabilité, comme vous l'aviez dit, par exemple, pour la question des frontières. Donc il y a un doute que le gouvernement actuel va réellement changer, et ça rassure pas forcément la population locale, qui malgré tout continue de soutenir M. Vučić, mais ça rassure pas forcément la population locale sur les optiques d'adhésion à l'horizon 2025. On est plutôt sur du 2030 d'après les dernières informations.
Pierre Mirel, la Commission a proposé que le Conseil européen décide à la fin de ce mois-ci, lors du Conseil européen de juin, d'ouvrir des négociations avec l'Albanie et la Macédoine. Ce n'est pas acquis, il y a beaucoup de réticence de la part de bien des pays. Et puis, il faut voir aussi, Pierre Mirel, avec le Brexit, la montée des populistes, la nouvelle donne en Italie, que les dirigeants européens ont la tête un peu ailleurs et se détourne un peu des Balkans occidentaux.
Oui, c'est vrai, mais il faut savoir ce que l'on veut, soit assurer la stabilité avec une perspective d'adhésion crédible, ou bien se fermer les yeux, laisser des influences extérieures continuer. Là encore, il n'y a pas d'alternative, et ouvrir des négociations n'est pas les conclure. Et moi, je plaide fort pour l'ouverture de ces négociations, notamment en regardant ce que l'Albanie a lancé comme réforme. Aucun autre pays dans les Balkans n'a lancé une réforme du judiciaire aussi profonde que ce que fait l'Albanie, avec un contrôle de l'ensemble des magistrats qui est extrêmement qui est rigoureux, risqué pour ceux qui le font, avec des menaces de mort. C'est dire l'importance de la réforme et la profondeur de la corruption jusqu'à maintenant. Et donc, moi, je souhaiterais beaucoup que l'Union européenne, encore une fois, pour récompenser, comme M. Macron le disait, récompenser pour les réformes, engage l'ouverture des négociations, tout en maintenant ensuite une rigueur dans le contrôle des réformes et la mise en application sur le terrain de ces réformes.
Alors on verra bien ce qui se passera au mois de juin. Alors Langevin, vous allez avoir le mot de la fin. Vous êtes à la fois et dans ces pays que vous connaissez particulièrement bien, notamment à Belgrade où vous vivez régulièrement, puis aussi en France. Donc vous connaissez bien un peu la sensation, les opinions publiques, les attentes des habitants de ces pays, et puis aussi la réticence, le poids des opinions publiques chez les 27, globalement très hostiles à un nouvel élargissement. En France, c'est par exemple le cas du parti des Républicains qui a dit l'adhésion des Balkans occidentaux, faut même pas y songer.
Oui, bon, écoutez, je pense que les opinions publiques, enfin l'opinion des sociétés peut changer aussi. Hein. Là, on sort d'une période de crise économique extrêmement difficile depuis 2008. Apparemment, la croissance repart un peu dans tous les États de la zone euro. Donc, on peut penser que les conditions économiques vont s'améliorer en France, en Allemagne, au Portugal, etc. Et que, partant de là, les sociétés seront peut-être plus prêtes à s'ouvrir ou à intégrer. Ou à s'élargir. Il y a des je pense que les opinions publiques changent aussi et qu'elles pourront éventuellement changer sur la question des Balkans. De toute façon, l'intégration n'est pas pour demain. Donc
qu'est-ce qui vous paraît le plus risqué et pour l'Union européenne et pour ces pays des Balkans occidentaux, l'adhésion? On a bien compris que c'est pas pour demain, ou le fait de rester cette zone grise sur la carte de l'Europe.
Écoutez, je pense qu'il y a un critère qui parle de lui-même. Hein. Les jeunes aujourd'hui dans les pays des Balkans n'attendent plus l'Europe, ils vont vers elle. Quand vous avez de larges parties de la population, de la jeunesse, des cadres diplômés qui partent vers l'Union européenne, c'est que concrètement ils sont fatigués d'attendre. Et on parle quand même d'une génération. Des gens qui ont 25 ans aujourd'hui, ça fait 25 ans qu'ils attendent. Donc à un moment, ils préfèrent y aller eux-mêmes.
Et c'est l'exode que l'on connaît. Et ces fameux migrants et réfugiés que l'on découvre un peu partout dans cette Europe à 27. Merci à tous les quatre d'avoir été au Carrefour de l'Europe. Réalisation Guillaume Muni avec Maria Afonso et Jerry Philly de Courrier International. Laurent Jeanne, je rappelle particulièrement le titre de votre livre, écrit avec Jean-Arnaud de Reims, Là où se mêlent les eaux, un très beau récit de voyage qui aide à comprendre à travers une succession de petites histoires, de rencontres et de portraits, ce qui se passe dans cette région du monde que l'on connaît fort mal. Il faut en être conscient. Des infos sur nos invités sur la page de l'émission RFI Carrefour de l'Europe. Le podcast, on dit aussi balado-diffusion au Québec sur RFI.fr et les applis RFI et RFI Plus Radio. On reste en contact via Facebook et Twitter. Daniel Desesquelles, que vous soyez à Belgrade, Tirana, Sarajevo, Pristina, Skopje ou encore Podgorica, voire ailleurs dans le monde, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et tout de suite un nouveau journal sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Au revoir.